retardataires, s'il y en a, nous rattraperons. Donc,
oui.
Merci en tout cas d'être sorti de chez vous par cette douceur printanière. Voilà, donc on avait prévu d'ailleurs la conférence un peu plus tôt dans l'année, mais un évêque émérite est finalement très occupé. Donc Jean-Christophe était occupé à la date qu'on avait prévue. Donc on est heureux évidemment de recevoir Jean-Christophe Laglaize, qui n'est pas un inconnu dans le diocèse, voilà, que le pape vous a enlevé pour le nommer à Valence, puis à Metz. Il réside maintenant en Corrèze, mais se promène beaucoup. Là, on a dîné ensemble. Et j'ai mesuré les promenades diverses, surtout les missions diverses. Et puis Jean-Christophe est donc quand même un spécialiste, je crois qu'on peut dire ça, de l'école de spiritualité française. Il était intervenu sur François de Sales déjà. Et donc là, avec un tout petit peu de retard par rapport au centenaire de la canonisation, là, en 1925, on s'est dit que ce serait intéressant d'évoquer la belle figure de Saint Jean-Eudes, surtout que l'école de spiritualité française, le culte du cœur de Jésus et Marie a quand même été très présent au dernier texte de François et au premier texte de notre pape Léon. Et donc, du coup, on est encore dans l'actualité.
Ah oui.
Voilà.
Merci. Alors, je vais peut-être approcher.
C'est peut-être mieux de prendre le micro parce que ça permet
oui.
Une meilleure qualité d'enregistrement.
Oui. Voilà, bien, merci à Claude Berruel. Alors, quand Claude m'a appelé, je dis, attends, Saint-Jean-Eudes, moi, je connaissais des choses sur Saint-Jean-Eudes, mais autant François de Sales, Saint-Vincent de Paul, je suis très à l'aise. Mais alors, du coup, je te remercie parce que ça m'a permis de me replonger dans Saint-Jean-Eudes. Alors, tu viens d'évoquer l'école française de spiritualité. Alors, François de Sales. Les puristes d'école française, dit François de Sales, ne peut pas être considéré de l'école française. Il est l'un des initiateurs. Bon, celui qui va être le maître de l'école française de spiritualité, c'est le cardinal de Bérulle, qui était le cousin de Madame Akkari. Donc Madame Akkari, grande mystique du XVIIe, qui tenait salon à Paris. Où allait François de Sales, où allait Vincent de Paul, et c'est elle, avec son cousin, le cardinal de Bérulle, qui introduit le Carmel réformé en France. Donc il y a la réforme de Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe, et Bérulle et Madame Akkari, d'ailleurs elle finira carmélite au Carmel de Pontoise. Voilà. Alors, l'école de spiritualité va naître, de l'école française, va naître dans ceux qui fréquentaient à la fois des prêtres, à la fois des religieuses, à la fois des laïcs, ce qu'on va appeler l'école française de spiritualité. Mais je vais revenir dessus parce que Saint-Jean-Eudes, alors en même temps, est totalement dans l'école française, mais va amener une touche particulière dans l'école française. Saint-Jean-Eudes va traverser quasiment tout le XVIIe siècle. Il naît en 1601, dans un village de Normandie, de l'Orne actuel, et il va mourir en 1680. Il est donc contemporain, dans sa prime jeunesse, il est contemporain de François de Sales, puisque François de Sales meurt en 1622, il est contemporain de saint Vincent de Paul, qui lui meurt en 1660, et dans sa vieillesse, il devient le contemporain de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui naît à la fin du XVIIe siècle. Voilà. Donc nous avons là, dans ce XVIIe siècle, qui est quand même un siècle éblouissant, que ce soit dans l'histoire de la sainteté, que ce soit dans la littérature, ce sont des contemporains de Racine, de Corneille, de La Fontaine et tout. Donc on est devant le grand siècle. Et pour tirer les guerres de Louis XIV, à ce moment-là, et puis Louis XIII quand même, qui a ferraillé un peu aussi, au début du XVIIe, voilà, ce grand siècle de la sainteté qui va imprimer la spiritualité française avec le drame, quand même, et on va voir que Saint-Jean-Eudes va avoir affaire à eux, aux jansénistes. Alors, le principe de l'école française, c'est la contemplation de Jésus, Verbe incarné. Je reprendrai ce qu'on nous a appris au grand séminaire. Donc, on était, nous les Berrichons, nous envoyaient faire notre premier cycle à l'époque au séminaire de Clermont, tenu par les Sulpiciens. Alors, j'ai oublié de parler de M. Ollier, qui est contemporain. Hein. Et les Sulpiciens disaient le principe de l'oraison, c'est Jésus devant ses yeux, Jésus dans ses mains, Jésus dans son cœur. L'école française de spiritualité, c'est la contemplation de Jésus, Dieu fait homme, le Verbe incarné. D'où va naître, et Saint Jean Eudes va être un des initiateurs de cette dévotion, héritier en cela de François de Sales, qui l'introduit déjà dans le traité de l'amour de Dieu, du cœur de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que les apparitions de Paray-le-Monial sont à la fin du XVIIe. Donc vous voyez, la contemplation de Jésus, on n'est plus dans un espèce de déisme. Contemplation de Jésus, le Fils de Dieu fait chair, fait homme, et qui nous révèle l'amour de son cœur. D'ailleurs, Pie X proclamera Saint Jean Eudes docteur et apôtre du culte liturgique du Sacré-Cœur. Vous savez peut-être qu'il est actuellement à l'étude que Saint Jean Eudes soit proclamé docteur de l'Église. Le dossier a été fait. Vous avez un évêque eudiste en France, c'est Michel Dubost, qui a œuvré beaucoup pour que Saint Jean Eudes puisse être déclaré docteur de l'Église. Donc, comme je vous l'ai dit, il va naître en 1601, donc dans l'Orne actuelle. C'est Henri IV qui est le roi de France, et Louis XIV, le dauphin, Louis XIII vient de naître. Louis XIII mourra assez jeune. Et donc, il va naître dans un village qui est près d'Argentan. C'est une famille de paysannes. Mais son père, on dit, avait songé à être prêtre. Et son père joint au travail de la terre le métier de chirurgien. Alors, chirurgien, à l'époque, c'est pas comme nous. Voilà, il arrache les dents. Alors, on cite quelques anecdotes. À 6 ou 7 ans, sa mère inquiète de ne pas le trouver, le retrouve à l'église en prière. Vers 9 ans, un camarade le gifle, il tend l'autre jour. Enfin bon. Alors ça, on a ça dans la vie des saints, hein, ils sont tout merveilleux. Hein. Voilà. Alors, c'est un style hein, de montrer que dès leur prime enfance, on retrouvera les mêmes traits dans la vie du Saint Curé d'Ars. À un moment, tout le monde passe à table, on cherche le petit Jean-Marie Vianney, et la maman le retrouve entre deux vaches à l'étable en train de prier avec les statues de la Sainte Vierge dans les mains. Voilà. Donc il faut montrer que dès le plus jeune âge, sachant que ça m'arrivait aussi, vous voyez, donc je suis en bonne voie pour la sainteté. Mais en fait, quand vous témoignerez, vous direz qu'il avait beaucoup d'humilité. Et alors, il va donc quitter son village pour aller dans la grande ville, une des capitales de la Normandie, à Caen, pour poursuivre ses études. Et là, on dit qu'il a déjà fait le vœu de chasteté. Donc, il a déjà pris une option quand même sur... cette optique sacerdotale. Alors, Jean Eudes se situe dans ce grand mouvement que je vous signalais au début, de cette espèce de bouillonnement spirituel extraordinaire, principalement en France. Sachant qu'il y a déjà eu un bouillonnement spirituel dans ce qu'on va appeler aujourd'hui l'Italie, avec deux grandes figures, qui vont être très chers à François de Sales, qui est Charles Borromée, hein, donc ce jeune archevêque de Milan nommé cardinal, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, quand Tonton, qui est pape, le nomme cardinal. Il va être évêque à 23 ou 24 ans, archevêque de Milan, et va être l'évêque modèle du Concile de Trente, de l'Épiscopat, c'est-à-dire l'évêque présent dans son diocèse, l'évêque qui fait les visites pastorales, l'évêque qui fonde un grand séminaire, l'évêque proche de son peuple, il est tellement proche de son peuple qu'il y a une épidémie de peste à Milan et il mourra de la peste très jeune. Donc, grande figure de sainteté qui va inspirer une partie des auteurs. Et l'autre grande figure que nous avons célébrée il y a quelques jours, c'est saint Philippe Néri. Donc, Philippe Néri, c'est un clown. C'est un clown. Il y a deux histoires sur saint Philippe Néri qui vous dit le bonhomme. Donc, c'était un riche Florentin qui arrive à Rome et puis on l'ordonne prêtre. Et là, il va créer des oratoires, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, des patronages. Et il va faire que des jeunes jouent de la musique et composent, qui va donner les oratorios. Les oratorios viennent de la fondation des oratoires de Saint-Philippe. Alors, un jour, tout le monde à Rome l'adorait. Tout le monde lui courra après. Il est le deuxième copatron de Rome, après Saint-Pierre et Saint-Paul, Philippe Néri. Alors, il est invité dans un dîner très bien, dans un palais romain. Et il se dit, oh non, elles vont encore toutes là, avec là. Oh. Alors, il était barbu, il se rase la moitié du visage. Alors, il arrive dans ce dîner très mondain. Toi, t'as gardé ta barbe des deux côtés. Hein. Mais Philippe Néri, donc, pour ce dîner, se rase que d'un côté. Il y a une autre chose très intéressante. Il confesse une dame, ça peut être un homme, qui s'accuse de faire traîner des rumeurs, des ragots, des tout ça. Et il lui dit, est-ce que vous avez des poules ? Oui. Vous avez tué, en rentrant, vous avez tué une poule. Puis vous la plumerez, puis vous laisserez les plumes dans votre cour. Et puis, vous revenez la semaine prochaine, et vous me ramenez les plumes. 8 jours après, elle revient. Mais mon père, je peux... Et les plumes ? Ben, je peux pas, elles sont parties, le vent les emportait. C'est comme tous vos ragots. Ils partent et vous ne pouvez jamais les rattraper. Voilà, vous voyez un peu le bonhomme qu'était Philippe Néri. Donc ça, c'est pour le mouvement italien. Sachant que François de Sales n'aura de cesse que de faire venir des oratoriens de l'oratoire de Philippe Néri à Thonon-les-Bains et à Annecy. Ce qui ne réussira pas. Et donc en France va naître ce courant dans le XVIIe siècle de ce mouvement d'une spiritualité de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour partager notre vie. Alors il va rencontrer bien sûr ces figures au cours de sa vie. Bon, je vous ai parlé de Madame Acari, il y a Chartreux de Don Beaucousin, il y a le Capucin Benoît de Campfield qui est un grand prédicateur. Pierre de Bérulle, bien sûr, le Saint-François de Sales qui arrive là, et puis va arriver très vite le jeune Vincent de Paul. Saint-Jean-Eudes est attiré par la congrégation qu'a fondée le cardinal de Bérulle, du moins, il ne l'a pas fondée, il a fait venir en France l'oratoire. Et donc Bérulle va fonder l'oratoire de France, qui existe encore. Mettons, si vous pensez à le père Quesnel, l'exégète, et de l'oratoire. Ils avaient le gros collège de Juilly. Vous avez dans la Christ moderniste un Berrichon, qui fut condamné en partie par Rome, le père Labertonnière, originaire de Vers-Saint-Benoît-du-Sault, il était membre de l'oratoire. Donc, Jean-Eudes va décider d'entrer dans cette congrégation nouvelle que le cardinal de Bérulle a initiée en France. C'est ce qui attire Jean-Eudes, c'est cette foi émerveillée dans le Verbe incarné. Ah, Jésus s'est fait chair. Jésus s'est fait petit enfant. Jésus, on peut le contempler, le regarder, en le contemplant, on voit Dieu. Mais papa n'est pas d'accord. Papa n'est pas d'accord. Alors la tradition raconte, on doit dire ça dans la famille, montrer que Jean-Eudes, c'est un héros. Jean selle un cheval et part, mais la bête refuse d'avancer. Il lui faut revenir, supplier, s'abandonner au vouloir de Dieu. Et finalement, papa dit oui. Et le 25 mars, pas innocent, 25 mars, l'Annonciation, le jour où Marie accepte de donner chair au Fils de Dieu. Le 25 mars 1623, il a donc 22 ans, Jean-Eudes est reçu par Bérulle, lui-même dans la congrégation de l'oratoire, à la maison de Saint-Honoré à Paris, et c'est d'ailleurs là qu'il va célébrer sa première messe à Noël 1625. C'est intéressant de voir que ces grands prédicateurs, je pense à Saint-Jean-Eudes là, qui est ordonné, qui célèbre sa première messe au couvent des oratoriens à Paris, Louis-Marie Grignon de Montfort sera aussi ordonné à Paris et célèbre sa première messe dans la chapelle de la Vierge de Saint-Sulpice. Quand vous visitez Saint-Sulpice à Paris, vous avez une plaque qui rappelle qu'ici, le Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a célébré sa première messe. Moi, il faudra mettre une plaque dans l'église de Saint-Gauthier. Alors, il va avoir des premiers ministères quand il est oratorien. Et il se révèle très rapidement un homme d'action au service de l'Évangile. Quand la peste éclate au pays d'Argentan, son pays, il va secourir les malades. Les supérieurs refusent. Il insiste, tenace. Et à la quatrième demande, le cardinal de Bérulle va enfin accepter qu'il rejoigne pendant 2 mois et demi sa région natale pour se mettre au service des personnes atteintes par la peste. 4 ans plus tard, en 1631, il a 30 ans, il renouvelle ce service héroïque à Caen. Et alors moi j'ai l'image de quand je travaillais bien à l'école et que j'avais un bon carnet, ma marraine m'offrait un album de la vie des saints. Et donc c'était, il y avait 4 images et 4 textes. Vous voyez, j'étais chez Fleurus. Belle vie, belles histoires. Alors bien sûr, un jour j'ai lu Saint Jean-Eudes. Et alors il m'est resté une image de Saint Jean-Eudes dans un tonneau. Bon, alors ça m'avait intrigué. Pourquoi il logeait dans un tonneau? C'était simple. 4 ans plus tard, en 1631, il renouvelle ce service héroïque à Caen, où il loge dans un tonneau au milieu des prés pour ne pas contaminer ses confrères. Parce qu'il a la communauté de Caen. S'il va au service des pestiférés, bon, Saint-Charles Borromée en est mort, mais lui, il se dit, je ne vais pas aller les contaminer. Donc il s'installe dans un tonneau, le temps qu'il secourt les gens qui sont atteints à Caen. Et à partir de 1632, on a repéré son dynamisme missionnaire, et il va donc être envoyé pour les missions. Alors c'est intéressant, au XVIIe siècle, l'état du catholicisme français est lamentable. On est quand même devant des évêques qui sont nommés à 4-5 ans. Saint François de Sales écrira à Louis XIII en disant « Sire, comment avez-vous pu nommer archevêque de Rouen un enfant qui tète encore sa nourrice ?» Des évêques n'ont jamais mis les pieds dans leur diocèse. Saint Vincent de Paul, précepteur de la famille de Gondi, donc maître général des galères et tout, suit la famille de Gondi dans son château de Folleville dans la Somme. Un vieux paysan mourant ne veut pas se confesser à son curé, donc on va chercher le précepteur. Vincent de Paul y va, le brave pépé se confesse. Il va voir le curé quand même pour dire qu'il a... Et il s'aperçoit que le curé ne sait même pas la formule d'absolution. Et là, il va le 25 janvier monter en chaire et là, annoncer les prémices des lazaristes de la congrégation de la mission qu'il va fonder. Donc, Saint Jean-Eudes, missionnant dans ces régions de Normandie, s'aperçoit de la déchristianisation et du manque de formation du clergé. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a rien. Plus, si on veut être nommé curé d'Argentan ou d'Évreux ou tout ça, il suffisait de donner une bonne enveloppe à Monseigneur et de signer les décrets de nomination. François de Sales va instaurer les examens pour avoir les charges. Donc Jean-Eudes arrive là-dedans et il va donc missionner. Comme Vincent de Paul fondera la congrégation de la mission pour les missions populaires et la formation des prêtres. Et il en prêchera plus d'une centaine de missions pendant 45 ans. Et les missions, c'est à peu près un mois. Avec prédication, des chemins de croix, des saluts du Saint-Sacrement, les confessions, tout ça. On a béatifié un saint du 18e qui a fondé les Sœurs du Saint-Sacrement de Valence. Donc j'étais évêque de Valence au moment de la béatification, donc on a surplongé. Pierre Vigne a sillonné une partie de l'Isère, de la Drôme actuelle, de l'Ardèche actuelle. Et il s'était mis, il n'avait pas un sac à dos, enfin c'était assez astucieux, les sœurs le conservent, à la maison de fondation. Il avait fait une espèce de hotte, où il mettait les bouquins, qui son linge et tout, et quand il arrivait, ça lui servait de confessionnal. Il y a des ouvertures sur chaque côté de cette hotte. Et il partait avec cette hotte sur le dos. Voilà. Donc, il en prêche chaque année deux ou trois. Il ne s'adresse pas aux gens coupés de la foi, mais à des chrétiens qui croient, mais qui sont prodigieusement ignorants du contenu de leur foi. Ce n'est pas une hostilité, mais les chrétiens ne sont plus forts. Et sa parole est d'une puissance extraordinaire. Il fait partie de ces saints du 17e, et on en aura au 18e, je pense à Clément Montfort, je pense à Pierre Vigne, on en voit d'autres, qui vont être des apôtres de feu. Ces gens, à Valognes, en 1643, la foule est si grande qu'il doit prêcher en plein air, derrière le château, devant peut-être 40 000 personnes les jours de fête. Et à l'époque, il n'y a pas de micro. Donc vous imaginez la voix de ces bons hommes. Il fallait du coffre. Monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, fondateur de Saint-Sulpice et sulpicien, note dans son journal que Saint-Jean-Eudes, ce grand prédicateur, la rareté de son siècle. Et Saint-Vincent de Paul lui-même témoigne de l'affluence extraordinaire que sa parole suscite. C'était vraiment deux très très grands prédicateurs. Mais s'apercevant par ses missions, par ses confrères de l'oratoire, il va se dire il faut créer quelque chose. Et donc, Jean-Eudes va faire partie, dans ce 17e, de fondateurs. Il va d'abord fonder la congrégation de Jésus et Marie pour les séminaires. Ce que l'on appelle aujourd'hui les eudistes. Le séminaire d'Orléans est un séminaire tenu par les eudistes. À la même époque, il va y avoir trois fondations principales pour la formation des prêtres. Jean-Jacques Ollier fonde à l'église Saint-Sulpice où les curés une compagnie de prêtres pour les séminaires qu'on va appeler les sulpiciens. Alors ici, les sulpiciens, le dernier sulpicien ici, c'est le père Soulcier, qui était à Saint-Sulpice. J'ai vu dans les nominations qu'un sulpicien va donner un coup de main sur le coin de Sancerre ou autre. Donc c'est une compagnie de prêtres fondée, alors eux uniquement pour la formation des prêtres. Vincent de Paul va fonder la congrégation de la mission qu'on appelle aujourd'hui les lazaristes, là aussi pour deux choses, trois choses, Saint Vincent de Paul. La formation des prêtres par les séminaires, puisque le Concile de Trente, au siècle précédent, a ordonné la fondation de séminaires. Les missions populaires, et il va, on va dire, fonder l'aumônerie des prisons, par l'aumônerie des galériens, et l'aumônerie militaire. Il enverra des prêtres de la mission sur les champs de bataille et les filles de la charité pour les ambulances sur les champs de bataille. Donc, Saint-Jean-Eudes fonde. Il trouve que le clergé est médiocre, parfois indigne. Et l'idée neuve qui mûrait dans plusieurs esprits à la même époque est celle des séminaires pour des candidats plus âgés de 20 à 30 ans. Alors, les premiers séminaires, c'est pas trop le séminaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un internat, hein, ou une résidence universitaire pour futurs prêtres. On a ce que faisait Saint-Vincent de Paul, le mardi après-midi, il réunissait les futurs prêtres, ou les jeunes prêtres, pour une conférence. Un de ceux qui ont participé aux conférences de Saint-Vincent de Paul est Antoine Moreau, fondateur des Sœurs du Saint-Sacrement et de la Charité de Beaumont. C'est intéressant parce que dans la fondation, Antoine Moreau est curé de Montoire sur le Loir. Comme il a suivi les conférences de Saint-Vincent de Paul, il va voir Saint-Vincent de Paul pour lui demander d'envoyer des filles de la charité à Montoire. Et Vincent de Paul lui répond, écoutez, tout le monde m'en demande, vous faites comme moi, fondez. C'est comme ça qu'on aide les Sœurs du Saint-Sacrement de Bourges. Jean-Eudes est oratorien. Et son projet n'obtient pas l'agrément de son supérieur, qui est le père Bourgoin. Alors il va prendre une décision douloureuse pour mener à bien la formation des futurs prêtres. Il va quitter l'oratoire. Et ce n'est pas à la légère, il sait que ce qu'il perd, l'amitié de ses confrères, parce que c'était un homme aimé, l'estime d'une congrégation qui est déjà puissante dans le royaume de France, il a une position brillante, hein, il est reconnu comme grand prédicateur, tout ça. Il a longuement réfléchi, prié, mais il prend la décision. Hein. Et jamais par la suite, même au plus fort des combats, il n'a exprimé le moindre regret. Il est parti, ben il est parti. Décision hardie, déchirante, prise pour le bien du royaume de Dieu. Et une fois de plus, il a pris l'évangile au sérieux. Le Christ lui disait « Viens, suis-moi », ben, il est allé là où le Christ le menait. Et le 25 mars 1643, donc n'oubliez pas qu'il intègre l'oratoire le 25 mars, et il fonde la congrégation de Jésus-Marie le 25 mars, l'Annonciation. 25 mars 1643, donc il a 42 ans, avec quelques jeunes prêtres qui l'ont suivi, il fonde la congrégation de Jésus et Marie, aujourd'hui appelée communément les Eudistes. Ils vont se réunir dans une maison ordinaire de Caen. On ne suit pas encore les études ecclésiastiques, hein. On y fait des séjours avant les ordres. Hein. Donc ceux qui se préparent à être prêtres, eh bien viennent passer quelques jours pour des cours, des formations, dans cette maison qu'il a fondée. Et très rapidement, il va fonder d'autres maisons pour la formation des prêtres, à Coutances, à Lisieux, à Rouen, à Évreux et à Rennes. Le ministère de Saint-Jean-Eudes, c'est vraiment un ministère pour la Normandie, pour l'ouest de la France. De même, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort sera le grand prédicateur de l'ouest de la France. Saint-Vincent de Paul, ça sera au niveau national. Puisque Vincent de Paul, par exemple, ne serait-ce que les aumôniers, les desservants de la chapelle royale de Versailles étaient les lazaristes, jusqu'à Louis XVI. Vincent de Paul va avoir une extension nationale. Et l'esprit de cette congrégation des eudistes est tout entier sacerdotal. Ses constitutions déclarent qu'elle ne reconnaît point d'autre instituteur que Jésus-Christ, souverain prêtre. Alors, un des grands spécialistes de l'école française de spiritualité et de ce type de prêtre qui est, entre guillemets, un nouveau Jésus-Christ, c'est Maxio de Longchamp. J'avais fait venir Max prêcher une retraite pour les prêtres de Moselle. Il m'avait dit qu'est-ce que tu veux que je leur dise. Je lui parle l'heure de l'image du prêtre dans l'école française. Donc, et on a appris ça, nous. Le modèle de tout prêtre, c'est Jésus-Christ, bon pasteur. Il va ensuite fonder une autre congrégation pour les femmes, Notre-Dame de Charité. Il s'est aperçu, entre autres à Caen, que beaucoup de jeunes filles quittant les campagnes arrivent à Caen et se font exploiter, au mieux comme domestiques, au pire comme prostituées. plus toutes ces naissances qui arrivent, et bien sûr les gars sont partis, donc des pauvres filles encore ados qui accouchent de bébés dans les caniveaux et tout ça. Et alors Saint-Jean-Eudes se dit, non mais voilà, comme dit le pape Léon XIV, hein, il faut sauvegarder la dignité humaine. Et donc il va fonder cette congrégation de Notre-Dame de Chartres. Une anecdote décisive se produit en 1641 à Caen. Une femme qui héberge quelques-unes de ses pénitentes voit passer le père Eudes et ses compagnons. Elle les interpelle rudement. « Où allez-vous tous ? Sans doute dans les églises pour y manger les images. Ce n'est pas là où gît le lièvre, mais bien à travailler à fonder une maison pour ces pauvres filles qui se perdent faute de moyens et de conduite. » Elle lui dit « C'est ça, vous allez dans les églises, vous priez devant des images qui ne bougent pas et tout, et moi je recueille ces pauvres filles et tout ça. Alors... il faudrait peut-être vous mettre aussi à fonder quelque chose pour leur rendre leur dignité. » Et Jean-Eudes, tout de suite, réagit en homme d'action. Après 10 ans de tâtonnement, de collaboration difficile, il va fonder l'Ordre de Notre-Dame de Charité et du Refuge, qui prend son essor et est approuvé par Rome, alors quelques années, oui quand même, 15 ans avant sa mort, le 2 janvier 1666. On reconnaît sa fondation comme congrégation. La grande originalité de Jean-Eudes est de ne pas admettre les pénitentes parmi les religieuses, ce qui distingue son institut de tous les essais contemporains, et de lui donner de solides constitutions. C'est-à-dire, ils accueillent les sœurs de Notre-Dame de Charité, accueillent les jeunes filles pour en faire des femmes. Et non pas, il y avait des congrégations qui accueillaient les repentis pour quasiment en faire des religieuses, ou les maintenir comme dans une espèce de prison dorée, pour pas qu'elles retombent dans leur faute. Lui se dit non, il faut en faire, voilà, il faut les réhabiliter et assurer leur conduite. L'institut de Jean-Eudes a vécu jusqu'à la Révolution française, mais a connu, et encore aujourd'hui, une grande prospérité dans ses rameaux, que sont entre autres les sœurs de la Charité du Bon Pasteur, fondée par Marie Euphrasie Pelletier, qui a d'abord été dans le surgeon des Sœurs de la Charité de Saint-Jean-Eudes, et puis ensuite qui va fonder sa congrégation. Alors, on avait à Bourges, enfin, là, c'est complètement transformé, il y avait le Bon Pasteur, où il y avait le fameux Pétrin. Il y a le miracle du pain avec la mère Euphrasie Pelletier de passage à Bourges. Si vous allez à Angers, vous avez de l'autre côté de la Maine un énorme, des énormes bâtiments, c'est la maison mère des Sœurs du Bon Pasteur. C'est l'un des seuls lieux en France quand on veut réunir 200 personnes. Voilà, c'est un des lieux. Voilà. Et elles ont un siège permanent à l'ONU, comme expert pour la lutte contre la traite des femmes, des êtres humains et tout. Elles sont d'une activité, les Sœurs du Bon Pasteur, dans les milieux de la prostitution haute, absolument remarquable. Leur origine, c'est quand même Saint-Jean-Eudes, repris ensuite par Marie Euphrasie au XIXe siècle. Autre fondation de Jean-Eudes, c'est la fête liturgique du Sacré-Cœur. C'est sans doute pour cela qu'il est principalement connu, hein, d'avoir été quand même l'instigateur du culte du Sacré-Cœur avant que Jésus se révèle à Marguerite Marie. Il avait compris que le culte chrétien en esprit et en vérité est d'abord une offrande intérieure et un don du cœur. L'amour seul importe. Avec le Christ et la Vierge Marie, nous avons des liens intimes et personnels, des liens du cœur, et c'est dans le cœur du Christ que s'offre à Dieu le sacrifice de l'amour parfait. Alors il avait lu les Pères de l'Église, il avait lu les mystiques, entre autres on a déjà cette intuition de la dévotion au cœur du Christ dans certaines mystiques rhénanes. Hildegarde déjà, mais Sainte Melchide, voilà, il y avait déjà cette, la contemplation du cœur de Jésus. Il a bien sûr lu Saint François de Sales, ça c'est clair, qui dédia le traité de l'amour de Dieu au cœur de la Vierge Marie et dans son vénéré père de Béru lui-même. Dès les années 1640, donc il a 39 ans, le père Eudes compose la salutation du cœur au cœur de Jésus et de Marie. Ce qui est nouveau. Et qu'il distribue au cours de ses missions. Puis il compose un office en l'honneur du cœur de Marie, célébré pour la première fois en public le 8 février 1648 à Autun. C'est assez prodigieux, le bonhomme. Alors, on parlait du cœur de Jésus, mais lui, ça va être la grande intuition de Saint Jean-Eudes, il lie le cœur de Jésus au cœur de Marie. C'est-à-dire qu'il a une dévotion, il a une dévotion mariale très forte, mais toujours liée au cœur de son fils. C'est quand même elle qui a donné à Jésus un cœur de chair. Relisez le magnifique poème de Marie-Noël, la berceuse de la Mère de Dieu, où Marie-Noël, cette grande poétesse, je dis parfois si j'avais été pape, mais là, je viens de louper mon tour, je béatifierais très rapidement Blaise Pascal et Marie-Noël. Vous voyez, Marie-Noël, c'est deux bouches, ô mon fils, vous n'en aviez pas, ta bouche, ô mon enfant, pour proclamer la bonne nouvelle, c'est moi qui te l'ai donnée, de cœur, ô mon fils, vous n'en aviez pas. Demain, mon fils, pour offrir le salut du genre humain sur la croix. Voilà. Eh bien, Saint Jean-Eudes, c'est ça. On ne peut voir le cœur de Jésus et le corps de Jésus que parce qu'il y a la Vierge Marie qui a dit oui à l'Annonciation. Alors, le pauvre, il va voir se déchaîner contre lui les jansénistes. Cet office se répand dans de nombreux monastères et couvents, visitant Digne, Ursuline, Carmélie, de nombreux évêques l'approuvent et des paroisses l'adoptent dans les diocèses d'Autun, Soissons, Lisieux, Évreux, Coutances et Toul. Puis, dans sa logique, il est conduit à composer un second office en l'honneur du cœur de Jésus. Il commence par Marie et il se dit on va faire aussi un office en l'honneur du cœur de Jésus. En 1672, la messe et l'office sont rédigés. Et où est-ce que cet office est célébré? Sur la butte Montmartre, chez les bénédictines, en 1674. Une fête solennelle du Sacré-Cœur. 200 ans après, quand on décidera d'ériger un monument comme vœu national, au Sacré-Cœur, on le fera sur la butte Montmartre. Et la butte Montmartre, c'est pas rien, c'est là que Saint Ignace, Pierre Fabre, François Xavier s'engagent tous les trois pour créer une nouvelle congrégation, ce sont les Jésuites. Et que dans l'apparition de Jésus à Marguerite Marie, il lui demandera, le père de la Colombière, son père spirituel et confident et jésuite, Jésus demandera que les visitandines rendent hommage à son cœur et que ce soit la compagnie de Jésus qui répande la dévotion à son cœur. Et quand Jean-Paul II est venu à Paray-le-Monial, il y avait encore le père Aroupé qui était le préposé général des jésuites. Jean-Paul II a rappelé dans la chapelle de la Colombière que c'est Jésus lui-même qui avait confié la dévotion au Sacré-Cœur au jésuite. Et donc c'est intéressant de voir que la première fois que l'office du Sacré-Cœur, rédigé par Saint Jean-Eudes, est célébré, c'est sur la butte Montmartre. Ça, j'ai redécouvert ça. Il y a des coïncidences quand même amusantes. Alors, quelle est la doctrine spirituelle de Jean-Eudes? On peut dire qu'il a trois sources. Je commençais quand même par la plus importante, la parole de Dieu. C'est un homme qui connaissait la parole de Dieu. N'oublions pas qu'une partie des prêtres savait à peine lire. Et ils n'avaient pas accès à la Bible. Vous savez que nous avons accès à la Bible, à la totalité de la Bible, que dans les années 1950, quand Pie XII, par une encyclique, va dire « La Bible a à être mise dans la main de tous les fidèles. » On avait des morceaux choisis. Je le dis parfois, quand on dit quelle est la grande nouveauté de Vatican II, tout le monde va dire « Ah ben la messe en français, l'hôtel... » Détail. Détail. La plus grande intuition de Vatican II, c'est Dei Verbum. C'est d'avoir remis la parole de Dieu au cœur du peuple de Dieu, et entre autres, rappelez-vous pour les plus anciens d'entre nous, quand nous allions à la messe, déjà les lectures étaient en latin, au mieux on avait un livre, alors quand on est au cathé, ben, on avait tout fait, avec le texte, et toute la semaine, le prêtre disait les mêmes textes que le dimanche. Et c'était le 12e dimanche après la Pentecôte, que ça soit une année père, un père, machin, c'était les mêmes. Vatican II, dans la Réforme, va dire non, on lira l'évangile de Matthieu une année, l'évangile de Marc une année, l'évangile de Luc une année. Saint Jean, on le lit pendant le temps pascal ou autre. Et puis on relira, en lien avec l'évangile, un texte de l'Ancien Testament, et on relira d'une manière continue les dimanches les lettres de Paul. Et puis, pendant le temps pascal, les actes des apôtres. Et en semaine, ça sera sur... Alors, l'évangile est le même tous les cinquième mardi, tout ça, c'est le même. Mais les lectures, la première lecture, change. Il y a une année, c'est des lectures, et l'autre année, d'autres lectures. Si bien que quelqu'un qui va à la messe, on va dire, tous les dimanches, et qui va à la messe en semaine, eh bien, il a quasiment une lecture de la Bible sur 3 ans. Ça, c'est la grande nouveauté. D'ailleurs, Saint Jean-Eudes, il connaît les Écritures. Pour connaître les Écritures, il fallait connaître le latin. Et au mieux, aussi le grec. Autre source d'inspiration, c'est bien sûr Bérulle, qui fonde l'oratoire en France. Et son autre maître spirituel, Saint Jean-Eudes, c'est Saint François de Sales. Par l'introduction à la vie dévote, le traité de l'amour de Dieu et différents écrits de saint François qu'il avait connaissance. Le père Milsand, qui est un de ses grands biographes, dit que Jean-Eudes n'est pas un écrivain, c'est pas un Bérulle, c'est pas un François de Sales. C'est un missionnaire, un homme ardent, qui aime le contact des foules, tout ça. Mais par contre, il a beaucoup écrit. Ses œuvres complètes, ses 12 volumes. En soi de ça, on doit être à la trentaine. Il écrivait pour servir, sans beaucoup se préoccuper de la forme, toujours talonné par d'autres tâches. C'est pas... Autant, si vous lisez le Cardinal de Bérulle, si vous lisez François de Sales, c'est composé. Saint-Jean-Eudes, c'est... Ça sort du cœur. Voilà, c'est rapide. Parce qu'il faut voilà, fonder, il faut soutenir, il faut faire des prédications, tout ça. Pour sa pensée s'est fermée en sillage de Bérulle. Hein. Rappelons, le père Milsand nous rappelle les 4 grands thèmes de la doctrine de Bérulle. Hein. C'est un esprit de révérence devant la grandeur de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le Père éternel et tout. Un christocentrisme mystique, le centre de notre vie spirituelle, c'est Jésus-Christ, en qui se réalise toute la plénitude de l'amour du Père, de Dieu. Et puis, les chrétiens sont appelés à se déposséder d'eux-mêmes pour adhérer au Christ. Et puis, bien sûr, la souveraineté de la Vierge Marie. On a des statues, des fois, ou des représentations de Saint Jean-Eudes. Il a 2 cœurs. Il a le cœur du Christ et le cœur de Marie. Saint François de Sales, il n'a qu'un cœur, généralement. Saint Augustin n'a qu'un cœur. Saint-Jean-Eudes va introduire dans sa spiritualité les deux cœurs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et enfin, l'exaltation du rôle du prêtre. Alors, dire ça aujourd'hui, ça peut paraître dangereux. Ce que le pape François appelle cléricalisme, le prêtre à part et tout, chez Bérulle, chez François de Sales, c'est chez saint Vincent de Paul, c'est saint Jean-Eudes, on ne peut pas les accuser d'avoir fait du prêtre une star ou une idole. Il a contemplé Jésus-Christ, bon pasteur, et reproduire dans la manière d'être les traits de Jésus-Christ, bon pasteur. C'est-à-dire que l'image du prêtre, chez eux, c'est vraiment... Le prêtre est là pour conduire les fidèles au Christ. Chez Jean-Eudes, l'influence de saint François de Sales est également décisive. Là où Bérulle va parler surtout de l'adoration, Jean-Eudes, comme François de Sales, parle davantage d'amour, de charité et d'union. C'est une nuance considérable. Il explicite le rôle de l'amour dans la vie chrétienne avec une insistance qui lui est propre. Ce qui va agacer au plus haut point les jansénistes, puisque pour les jansénistes, Dieu est le juge. Vous voyez les crucifix jansénistes ? On en a quelques-uns, surtout dans le Bourbonnais. Pour montrer qu'il y en a très peu de sauvés, Jésus a les bras comme ça sur la croix. Son sang ne tombe que sur quelques-uns. Que chez les Christes romains hautes, il est comme ça, pour montrer que saint Athanase, dans le traité de l'amour, l'incarnation, saint Athanase, secrétaire du conseil de Nicée, dira pourquoi il est mort sur la croix, ben, pour bien vu tout le monde. La croix, elle est à la fois le haut et dans le ciel, et le pied dans la terre, et bien du coup le Christ, il est l'intercesseur, la médiation entre les cieux et la terre, et il meurt les bras bien étendus pour d'un côté ramener à lui le peuple d'Israël, et de l'autre le peuple des païens. Donc saint François de Sales sera dans cette optique, saint Jean-Eudes, s'inspirant de François de Sales, sera dans cette optique, les jansénistes, c'est, il y a peu de sauvés, on ne peut pas communier, on est pécheur, on est indigne et tout. C'était ça. Et alors le pauvre, il va s'en prendre jusqu'à être dénoncé en haut lieu. Ensuite, autre point de sa doctrine spirituelle, le corps mystique. Le corps vivant en nous. Alors là, c'est très intéressant. Parce que saint Jean-Eudes est sans doute, dans l'école dans la spirituelle d'école française, et ça j'en ai reparlé l'autre jour avec Michel Dubos, pendant le repas qu'on avait avant les béatifications à Notre-Dame l'autre jour, je lui ai dit, non, il faut que je fasse quelque chose sur saint Jean-Eudes, tu peux me donner des tuyaux. Alors il me dit, bah, écoute, je vais faire un prix en église, un prier 15 jours, mais bon. Il me dit, il faut que tu insistes sur le baptême. Saint Jean-Eudes est quelqu'un qui a remis en valeur ce qui était donc chez les pères de l'Église. Par le baptême, nous sommes faits fils et filles de Dieu et nous sommes héritiers. Et donc, saint Jean-Eudes a cette notion du baptême qui fait de nous le corps mystique de Jésus-Christ. Premier thème de saint Jean-Eudes, c'est la foi au Verbe incarné, rassemblant l'unité de son corps mystique, toute l'humanité rachetée. Ça, vraiment, il reprend le Christ étant tous et tout en tous, nous sommes ses membres, os de ses os et chair de sa chair. Nous sommes unis à lui d'une union incomparablement plus étroite que celle des membres d'un corps avec leur tête. Et tout ça, c'est notre baptême qui nous fait être Jésus. Donc, le baptême est une nouvelle naissance qui a pour modèle la naissance éternelle du Fils de Dieu au sein de son Père et sa naissance temporale au sein de la Vierge Marie. Par le baptême, Dieu nous fait entrer dans une merveilleuse alliance avec lui, une alliance si haute qu'elle mérite d'être comparée à l'unité qui est entre le Père et le Fils. Le baptême est aussi une mort et une résurrection. Mort au péché avec le Christ, nous ressuscitons avec lui pour la vie. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la spiritualité de saint Jean-Eudes. L'autre primat, mais on l'a déjà souligné, c'est le primat de l'amour. Le Seigneur nous aime, il nous révèle son cœur. La Vierge Marie nous aime parce qu'elle est notre mère et qu'elle est la mère de Jésus-Christ. Et donc, nous avons, nous aussi, à transpirer cet amour autour de nous. D'où ces fondations qu'il fera. Et puis, la clé de voûte de l'œuvre de Saint Jean Eudes, c'est la doctrine du cœur. La doctrine du cœur, le cœur est le signe de Dieu amour se révélant et se donnant au cœur des hommes en Jésus-Christ. Et Jean Eudes distingue trois plans dans le cœur du Christ, hein, son cœur corporel, celui qui fait toc-toc, son cœur spirituel qui est, on pourrait dire, l'âme de Jésus-Christ, et son cœur divin qui est ce cœur qui l'unit au Père, à son Père. Et alors, voilà une audace propre à Saint Jean Eudes. Si Jésus est la tête du corps mystique, son cœur est le cœur de tout le corps et de chacun de ses membres, le cœur du Christ est aussi le nôtre. Oui, il pousse loin. Hein ? Si Jésus est la tête du corps mystique, son cœur est le cœur de tout le corps, et donc de chacun de ses membres. Le cœur du Christ est aussi le nôtre. Tout est à nous, comme dit saint Paul. Je peux aimer par le cœur de Jésus, par le cœur de Marie, par celui de tous les saints. Et c'est de tous ces cœurs ensemble qu'il faut entendre le commandement de tout mon cœur. Et il reprendra aussi, il découvre avec un certain éblouissement le chapitre 36 d'Ézéchiel, hein, où Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair à la place de votre cœur de pierre, un esprit nouveau qui sera mon esprit. » Et lui, Jean-Eudes, lit en pensant cela, « Je vous donnerai le cœur de mon Fils bien-aimé, je vous donnerai l'esprit d'amour qui est mon propre cœur, et c'est Permissant qui conclut, voilà le cœur de la doctrine de Saint Jean-Eudes. Alors le petit Jean-Eudes, par contre, il va en baver. Les premières oppositions viennent d'abord de ses frères de l'oratoire, qu'il a dû quitter pour fonder un séminaire à Caen, puisque le supérieur ne voulait pas. Alors, c'était quand même une gloire du jeune oratoire. Quand il y a une communauté nouvelle et qu'il y a un ou deux leaders, le voir partir ailleurs, ça ne plaît pas. Donc ils vont lui mener la vie dure. Puis ce sont les jansénistes qui s'opposent violemment à ce héros du cœur de Marie. Parfois l'autorité la plus sacrée prend parti contre lui. En 1650, l'officialité de Caen lui interdit de célébrer la messe dans la ville et fait mettre les scellés à la porte de la chapelle. Comment réagit-il ? Avec une paix surnaturelle. La grâce le rend comme insensible aux calomnies. Ça, c'est une grande leçon de la vie des saints. Les saints les plus maltraités et tout, ne réagissent pas avec violence ou autre. Après, ils ont des réactions. Le curé d'Ars, quand il est jeune curé d'Ars, les gens commencent à en avoir un peu assez. Donc, il combat contre les balles, il dit qu'il ne faut pas travailler le dimanche, qu'il faut que les femmes se reposent. Donc, les propriétaires, ils étaient contents. Hein. Leurs femmes, elles travaillaient, leurs filles, aussi bien le mardi que le dimanche, pour préparer à manger, faire les lessives et tout. Le curé d'Ars dit « Non, le dimanche, tout le monde se repose. » Alors on se dit « Oh là là, celui-là, il commence à nous... Bon. » Et voilà qu'il y a une jeune fille de ce village qui a dû folâtrer au cours d'un bal et qui vient d'accoucher. Il n'y a pas de père. Et ils disent « Ben voilà un bon prétexte. On va faire croire que c'est lui le père. » Et un soir, elle va, avec toute une bande, sous les fenêtres du presbytère d'Ars, et lui crier « Reconnais ton fils, en fait tout ça. » Et il dira « Je ne sais pas, mais je suis devenu mon corps est devenu tout rouge. Une réaction cutanée liée au choc qu'il avait reçu. Mais les saints, ils prennent pas une épée, machin, et vas-y que je te provoque en duel, et tout ça. Non, ils réagissent avec une paix, comme dirait le pape Léon XIV, une paix désarmante. On est désarmé devant ce peu de réaction violente. D'autres fois, il a un amour touchant. Écoutez cette image qu'il emploie pour parler de lui-même dans une lettre. Les grands chiens de ce pays n'ont ni mordu ni aboyé le petit chien blanc aux oreilles noires, dit-il en parlant de lui. À Caen, on le mord, on le déchire, on le met en pièces, mais il appartient à un maître qui saura bien le défendre quand il lui plaira. Donc il se compare à un petit chien, les grands chiens, eh bien ils viennent le mordre et tout à Caen. J'ai emmené l'autre jour un jeune prêtre de Metz, le dernier que j'avais ordonné. Je lui avais demandé, il a toujours fait ce que je lui ai demandé, ce jeune. Et alors, je lui avais demandé de passer son brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. J'ai dit que si tu le fais, et si tu l'as, je t'offrirai un cadeau. Et il a fondé un patronage à Thionville. Donc je lui ai dit, alors il m'appelle, il m'avait envoyé son mémoire avant, tout ça. Et puis je lui ai dit, bah écoute, puisque tu l'as, je t'ai promis un cadeau, je tiens mes promesses. Mon cadeau, je t'emmène 4 jours à Turin, sur les pas de Don Bosco, de Frassati. Donc nous sommes partis tous les deux à Turin, et je lui ai raconté l'histoire du Grigio. Vous connaissez l'histoire du Grigio ?
Non.
Donc Saint Jean Bosco, bah, très vite va fonder, va recueillir tous ces jeunes qui descendaient des montagnes pour s'embaucher dans la ville industrielle de Turin. Il s'aperçoit qu'ils sont exploités par les patrons, donc il leur apprend à lire et à compter. Puis ensuite, il va créer des écoles de formation en typographie, en maçonnerie, hein, tout ça. Et donc, les jeunes qui sortent de ces écoles, ben, ils sont formés, ils savent lire un contrat de travail, ils savent compter. Et donc, le grand patronat de Turin demande à l'évêque de virer ce prêtre insupportable. En plus, il va à la prison, tu sais, il va voir les gens. Alors, on va essayer de l'assassiner. On va... Et pendant... Alors moi, j'ai découvert ça. Pendant quasiment 15 ans, à certains moments, un chien gris, un énorme chien gris, surgissait pour le défendre. Et un des Salésiens nous a emmenés en disant, bah, écoutez, on va aller là où Don Bosco a fondé le Salésien et l'oratoire. Et il nous dit, bah, ici, on a... Don Bosco a toujours dit, c'est ici qu'une fois le Grigio m'a défendu d'assassin. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà avec les poignards, dans le musée noir, au coin de rue, dans ce quartier. Maintenant, c'est très peuplé, mais à l'époque... Et là, le chien a surgi, tout ça. Et alors, il me dit, vous savez que les vieux Salésiens qui avaient connu Don Bosco et qui étaient à sa canonisation, à un moment, il y a un chien énorme qui est arrivé place Saint-Pierre, et les vieux Salésiens ont dit, on le reconnaît, c'est le Grigio. Ensuite, on ramène la chasse de Don Bosco une autre fois, alors, on ramène la chasse de Don Bosco de Rome à Turin, et il fallait faire des haltes. Alors, dans une église, on craignait des manifs et autres. Les carabiniers amènent la chasse de Don Bosco dans l'église, et tout d'un coup, est arrivé un énorme chien gris. Il s'est couché sous le brancard. Les carabiniers, tout le monde, le curé, tout le monde essayait de le virer. Il ne bougeait pas, il n'était pas méchant. Et puis, quand le matin, il a fallu ramener la chasse de Don Bosco vers Turin, le chien gris avait disparu. Donc, vous voyez, dans la vie des saints, il y a des choses comme ça. Parce que tous les saints ont eu des moments d'extrême difficulté. Souvent, d'ailleurs, avec les évêques. Et pour moi, c'est très bon signe. Des fois, j'étais pénible avec une communauté nouvelle quand j'étais avec de Valence. Des fois, je redescendais de leur montagne, là où ils devaient dire la glaise, ils nous en vont. Je leur disais, je vous fais du bien. Regardez la vie des saints. Une Anne-Marie Javouet, interdite de communier pendant des mois parce qu'elle défendait les esclaves. Tout ça, ben là, c'était les évêques. Et puis, l'une des épreuves les plus rudes qu'il va, c'est qu'il est tombé en disgrâce auprès de Louis XIV. Il était estimé par le roi, par la cour. Et de 1674 à 1679, cette disgrâce de la part du roi menace même la congrégation de Jésus et Marie. En tout cela, il garda la paix profonde du cœur et pardonna toujours, comme il disait, à ses bienfaiteurs. Voilà. Alors, il va être calomnié, il va être accusé d'hérésie. Vous savez, avec l'histoire du cœur et compagnie, les jansénistes ne vont pas le lâcher. Et parce qu'il ne trouve pas dans l'Évangile, il ne réagit pas parce que Jésus n'a jamais réagi face aux calomnies. Vraiment, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et puis, bon, bah, il va mourir hein, quand même. Il meurt très âgé, hein, 79 ans. Au 17e, Saint Vincent de Paul mourra au même âge, hein, 79 ans. François de Sales mourra, lui, à 55 ans. Voilà, donc Saint Louis de Montfort, je crois, meurt à 41, 42 ans. Donc on a là deux géants de l'école française qui vont avoir le temps d'imprimer une marque sur leur siècle et encore aujourd'hui par la longévité de leur vie. Les derniers années de sa vie sont marquées par une humilité limpide. À 74 ans, il prêche encore dehors, devant de vastes auditoires, avec une fougue extraordinaire. Mais l'année suivante, l'agitation d'un coche lui cause une hernie qui l'empêchera d'aller en mission. Il en souffre dans tout son corps, mais bien davantage selon l'esprit. Au sortir d'une grave maladie, il écrit que le Seigneur l'a guéri afin de lui donner le temps de se convertir et de commencer une vie nouvelle. Il ajoute que notre Seigneur et sa Sainte Mère lui accordent de commencer à les aimer comme il le doit, car il ne sait pas s'il a encore commencé. Lui qui avait vécu que pour eux. Or, c'est l'humilité des saints. En même temps, quand on sait que les saints ont de l'humour, on peut se demander si ce n'est pas non plus un trait d'humour, et que les disciples notent. Voilà. Il consacre ses dernières années à écrire notamment le gros livre du cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu. Il met toutes ses affaires en ordre et assure sa succession à la tête de la congrégation. Puis après une courte maladie, durant laquelle il parle du paradis comme s'il y était déjà, le 19 août 1600, 80, à 3h de l'après-midi. En union avec Jésus-Christ, mort en croix par amour, il rend son âme à Dieu. Il mourait comme il avait servi, avec un grand cœur et une âme généreuse. Alors la fécondité de Saint Jean-Eudes, eh ben, elle est nombreuse. Hein, nous avons donc parlé de la congrégation de Jésus et de Marie, donc les eudistes, qui dirigeaient 16 séminaires et 4 collèges à la Révolution. Mais tardivement rassemblés en 1826, les eudistes ont repris leur mission, les collèges, les séminaires, et sur la demande de Léon XIII, ils œuvrent au Canada, au Venezuela et en Côte d'Ivoire. En France, comme séminaire, ils ont donc Orléans, et je pense qu'ils ont en partie encore le séminaire de Rennes. Les Sulpiciens ont encore ici les Moulineaux, ils ont Nantes. Les lazaristes n'en ont plus, bien qu'il y ait un lazariste, deux lazaristes à nos séminaires d'Orléans. Voilà. Lors de Notre-Dame de Charité, donc, avec ces deux rameaux comptés, il y a donc une trentaine d'années, environ 500 maisons et 12 000 religieuses présentes dans le monde entier. Plusieurs autres familles religieuses se réclament de l'héritage de Saint Jean-Eudes. Les sœurs du bon pasteur en Normandie, les bons pasteurs de Caen, la Sainte Famille de C, les congrégations de Coutances, Saint-Quay, Paramé, elles sont encore à Paramé, donc Paramé c'est Saint-Servan, Saint-Malo, c'est un plateau, les Dames de Saint-Raphaël, et puis, une grande sainte bretonne, qui elles font partie, on peut dire, de la famille eudiste, les petites sœurs des pauvres. Saint Jeanne Jugan s'est inspiré de Saint Jean-Eudes, des Eudistes, et des constitutions des Eudistes pour faire la fondation des petites sœurs du Collège. Puisque je crois que Jeanne Jugan elle-même était membre d'un tiers ordre lié à Saint Jean-Eudes. La doctrine du cœur, ben, elle a fructifié bien de l'au-delà des instituts eudistes. Le pape Pie XII, dans l'encyclique Ioritis Aqua sur le culte du Sacré-Cœur, a développé des thèmes auxquels Saint Jean-Eudes avait ouvert la voie. Alors, pour conclure, on pourrait retenir que Saint Jean-Eudes, c'est un homme qui prend l'Évangile au sérieux. C'est un docteur de l'amour. Alors, le docteur de l'amour, c'est saint François de Sales, puisque vous savez que quand l'Église proclame un docteur de l'Église, elle lui attribue, je dirais, une qualité. Donc, le docteur de l'amour, c'est saint François de Sales. Saint Jean-Eudes, Léon XIV, ou je ne sais pas qui, trouvera... C'est un serviteur du sacerdoce. C'est vraiment, vraiment, avec Vincent de Paul, avec M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, des hommes qui ont pris au sérieux, pour le bien du peuple de Dieu, la formation des prêtres. Et puis c'est un témoin de la miséricorde dans l'épreuve. Et le tout, toujours, l'amour du cœur de Jésus, l'amour du cœur de Marie, doit se vivre auprès des pauvres. Je reprendrai volontiers, je viens de finir une retraite de 9 jours pour des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, la semaine dernière et le début de la semaine. Je leur rappelais ce que disait Saint-Vincent-de-Paul. Quand vous voyez un pauvre, quand vous soignez un pauvre, retournez la médaille, vous y verrez les traits de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes devant un pauvre, retirez ses vêtements et vous verrez le corps du Christ. Et c'est cette veine de ces hommes et de ces femmes. Parce que, alors, chez Saint-Jean-Eudes, je n'ai pas repéré de femmes... Vous ne pouvez pas imaginer Saint-Vincent-de-Paul sans Sainte-Louise de Marillac. Vous ne pouvez pas imaginer... Monsieur Ollier avec la bienheureuse Agnès de Langeac. Vous ne pouvez pas imaginer saint François de Sales sans sainte Jeanne de Chantal. Saint Jean-Eudes, alors il y a eu des mystiques normandes qu'il a fréquentées, ça on le sait, mais il a. On ne peut pas dire qu'il a une personne féminine qui est, je dirais, complément à lui. Mais vraiment, quand ils fondent les sœurs de Notre-Dame de Charité, c'est vraiment pour ces pauvres jeunes filles exploitées, tout ça, qui veut à tout prix leur donner une condition tout à fait honorable. Voilà un petit peu une des grandes figures méconnues. On connaît peu Saint-Jean-Eudes. On connaît un peu François de Sales, on connaît bien sûr Saint-Vincent-de-Paul... ici, nos prêtres, en partie, sont formés par les Eudistes. Ma génération en a été formée par les Sulpiciens. Y a-t-il des questions ?
Absolument. Merci, en tout cas. Ça vaut quelques applaudissements. Merci, en tout cas, de...